Le génie artistique peut consister à faire accepter l'inacceptable.
Je crois que le créateur ne doit absolument pas se soucier de l'opinion du plus grand nombre, ni pour la mépriser, ni pour la rechercher. The dream.
L'art contemporain, c'est de la merde.
Si on veut faire quelque chose de différent, il faut s'attendre à ne pas rencontrer la compréhension tout de suite.
Artomatique, l'émission d'art qui te concerne.
Bonjour chers auditeurs de Radio Saint-Féréol, aujourd'hui j'ai la joie de retrouver Sylvia Barry, une artiste qui expose à la galerie de Si les vaches avaient des ailes à Ronthon jusqu'au 30 avril. Bonjour Sylvia.
Bonjour Maroussia.
Alors le vernissage a eu lieu vendredi soir et on a pu inaugurer une exposition qui est marquante pour le lieu. C'est un bel événement et c'était vraiment un plaisir de t'accueillir dans ce cadre.
Pour moi, c'était vraiment une joie, quoi, une belle opportunité de montrer mon travail ici et d'être accompagnée de toutes ces personnes qui sont venues visiter cette exposition.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Sylvia a un parcours très particulier parce que je t'avais décrit comme une créature hybride, à la fois au niveau du parcours professionnel, parce que au départ, tu es chercheuse en agroforesterie. Tu t'es spécialisée sur la biodiversité, notamment brésilienne. Et puis, hybride aussi parce que tu as énormément voyagé, vécu dans plusieurs pays. Tu es porteuse de plusieurs cultures également. Et on retrouve des éléments de l'hybridation dans ton travail par la juxtaposition d'éléments qui ont trait à la biodiversité, que ce soit le monde végétal ou le monde animal, qui sont disposés d'une manière très particulière. Alors, on pourrait, en voyant le travail, en avoir une première perception de quelque chose qui relèverait de l'art naïf, pour ceux qui connaissent bien le douanier Rousseau, et en même temps, ce serait intéressant que tu nous réexpliques un peu ce qui se passe dans ces tableaux parce que il y a un vrai travail de recherche derrière et ce serait chouette que tu puisses nous faire prendre conscience, nous communiquer les éléments qui sont relatifs à toute ta recherche.
D'accord. Je vais déjà rebondir sur la présentation que tu fais de moi, parce qu'effectivement, j'ai des origines libanaises. Je suis née au Maroc, je suis arrivée dans la Drôme où j'ai vécu très peu, et puis je suis partie faire des recherches, des études scientifiques à Montpellier qui m'ont menée à faire de la recherche en botanique et écologie tropicale au Brésil. Donc effectivement, j'ai intégré toutes ces origines et ces voyages dans la peinture que j'ai développée après avoir fait de la recherche, tout un parcours de recherche, sur les systèmes agroforestiers, les pratiques agroforestières traditionnelles des populations des forêts tropicales, en particulier amazonienne. Et quand je me suis mise à peindre, dans un premier temps, on n'a pas retrouvé ces origines botaniques, enfin ce parcours botanique, mais je l'ai introduit petit à petit dans ma peinture, de façon très timide au départ, en introduisant seulement quelques petits éléments, et puis autour de moi, on m'a demandé d'illustrer des thèmes de biodiversité du Brésil. Et effectivement, certains de mes tableaux ont commencé à illustrer des livres de vulgarisation scientifique parlant de la biodiversité brésilienne, amazonienne en particulier. Et donc on y retrouve, et là je l'ai fait de façon beaucoup plus intentionnelle, des éléments végétaux, animaux, et même pour évoquer les populations et la biodiversité humaine, des éléments de l'artisanat ou du graphisme de populations indigènes.
Alors, ce qui pourrait être chouette, c'est que tu nous racontes certaines de ces œuvres.
Donc voilà, le premier que j'ai fait intentionnellement que j'ai peint intentionnellement pour illustrer un livre parlant de la biodiversité amazonienne. C'est un tableau que j'ai peint en 2014, qui fait 80 cm sur 40 en format paysage et dans lequel, je peignais beaucoup avant des petits carrés, des formes assez géométriques dans lesquelles j'introduisais quelques éléments. Là, il est plus sous forme de vagues, d'ondes en fait, de compartimentations en fait formées par des courbes. Et j'ai essayé d'illustrer dedans un petit peu tous les règnes végétaux, animaux qui me venaient. Sans en faire pour autant de l'illustration naturaliste, en fait. Il y a certains êtres représentés là, je ne peux pas dire exactement ce qu'ils sont. Visiblement, ils sont animaux ou en forme d'amibe, mais en fait, voilà, ils sont vraiment. J'ai gardé en fait mon imagination. Sans vouloir représenter de façon fidèle certains animaux ou plantes. Et puis on y retrouve donc des lézards, des espèces d'algues probablement, au centre, évidemment, dans une partie plus jaune, des feuilles, enfin ça c'est plus classique. Dans le bas, ce sont des motifs. Sur un fond rouge, des motifs géométriques ou plus graphiques qui représentent tout le graphisme qu'on peut retrouver sur l'artisanat indigène. Et même dans la partie supérieure, en haut à droite, là, il y a vraiment des motifs fidèles à l'art rupestre ou artisanal de certaines populations amazoniennes. Et voilà, c'était important de représenter un petit peu toutes les catégories de végétaux, animaux, des fruits qu'on peut voir, des coupes de fruits dans un fond plus marron avec des petits champignons au-dessus, puis des êtres animaux très imaginaires, évidemment, mais je pense qu'ils peuvent évoquer des animaux sans savoir exactement ce qu'ils sont.
Et les éléments marins.
Alors, les éléments marins, c'est que on retrouve quand même dans certaines régions, enfin d'abord des escargots, on en trouve hein, de façon terrestre, et puis l'Amazonie va jusqu'à à l'estuaire de l'Amazone dans lequel il rencontre la mer. Donc, il pouvait y avoir une rencontre avec l'univers marin, des étoiles de mer, des méduses, des coquillages, en fait, qu'on retrouve tout à fait en haut à gauche et qu'on peut retrouver dans des univers marins et saumâtres aussi. Et donc, j'étais à la frontière entre cet univers très imaginaire et ce qu'on me demandait, qui était d'évoquer la biodiversité, mais dans lequel, dans cette peinture, je ne m'efforçais pas de représenter des espèces très particulières.
Polo et Pan, Canopée. Sylvia Barry sur Art Automatique par Maroussia.
On peut parler du tableau qui s'appelle Paysage à Janelle, qui est un tableau aussi en format bien horizontal, assez long. Il fait 1,20 m par 40 cm. Et donc, dans lequel j'ai représenté des scènes agricoles. C'était plus sur le thème de l'agrobiodiversité, donc la diversité des pratiques et des systèmes agricoles. Et ici, bah, j'ai introduit des personnages, des agriculteurs, des paysans. Encore une fois, beaucoup de ces éléments-là sont ne sont pas forcément réels, mais imaginaires. Mais dans ce cadre-là, on peut voir, par exemple, un arbre que j'ai représenté avec des feuilles bleues, ce qui ne serait pas du tout une couleur réelle pour cet arbre, mais qui pour moi est interprétation d'un papayer. Donc, on voit les papayes sur le tronc. Donc là, on reconnaît plus bas du maïs, des bananiers avec une dame qui se penche sur un petit jeune plant de banane. On peut reconnaître ce palmier dont on voit un régime de fruits, donc plus vers la gauche du tableau, qui pour moi représenterait ce qu'on appelle un buriti au Brésil, un palmier bâche en Guyane, donc c'est une espèce particulière de palmier dont on utilise les fruits et toutes les feuilles aussi, enfin tous les
Pour
éléments.
faire quoi?
Alors les fruits pour faire, c'est alimentaire, on les mange, soit comme ça, mais c'est moins fréquent. Sinon, on en fait une boisson. Avec beaucoup de fruits de palmier au Brésil, enfin en Amazonie, on produit une boisson qu'on appelle un vin de ce fruit, mais en réalité qui est un jus produit avec la pulpe diluée dans de l'eau. Un jus assez épais, très prisé, très riche. Celui-ci en particulier est très gras, très apprécié par tout le monde, par moi aussi. Et puis le tronc est un bois, enfin une sorte, je ne sais pas si on dit un bois de palmier, mais enfin très léger. On fait de l'artisanat, c'est un bois qui flotte. Donc on fait beaucoup d'artisanat très léger parce qu'on peut le sculpter un peu. Enfin, c'est vraiment de la sculpture. Ils en font des petits bateaux traditionnels, des mobiles en sculptant des oiseaux, de la faune locale. Les pailles, les feuilles sont utilisées pour faire des toits d'habitation, en fait. Un tressage, en fait, toute de la vannerie. Et beaucoup de toits, oui, comme des tuiles. Ce tableau, parce que je l'ai réalisé plus récemment pour un autre jeu pédagogique aussi, mais qui était consacré cette fois-ci non pas à l'Amazonie, mais à cette région du Brésil, le Nord-Est, beaucoup
C'est
plus sèche.
celui qui s'appelle la Catinga, c'est ça?
C'est ça. En fait, la
C'est un
série
grand
s'appelle...
format.
Celui-ci est un grand format, il fait 80 cm de côté, un format carré. Il fait partie d'une série qui s'appelle la série Catinga, parce que la Catinga, alors qu'on appelle l'Amazonie est un des biomes, c'est un terme technique, mais un biome du Brésil, et la Catinga est un autre biome, donc il correspond à une végétation beaucoup plus sèche.
C'est quoi un biome?
C'est un ensemble de paysages, de végétation et d'animaux, en fait. En gros, c'est des supra-écosystèmes. Et là, il s'agissait d'illustrer donc des systèmes agricoles traditionnels de la Caatinga, toujours dans la même perspective de créer des documents pédagogiques pour sensibiliser à la conservation. Donc, ce tableau, sur ce tableau, j'ai voulu représenter donc un territoire indigène de la Caatinga. Donc pas un territoire indigène particulier, mais un tableau qui évoquerait les réserves indiennes dans la Caatinga. Bon, moi je connais pas bien la Caatinga, je suis allée très peu. Autant je connais bien l'Amazonie, cette région-là, je la maîtrise pas, mais pour réaliser ce tableau, j'ai échangé avec les personnes qui m'avaient d'ailleurs demandé ces illustrations, qui connaissent bien. Ensuite, j'ai fait une recherche bibliographique et iconographique sur laquelle je me suis basée pour dessiner et peindre. Donc ici, j'ai rassemblé ce qui me semblait être vraiment caractéristique comme élément. Donc, bien sûr, des populations indiennes, puisque amérindienne. Ici, il y en a deux différentes, d'ailleurs. Je les ai représentées avec leurs habits traditionnels, parce qu'on les appelle les Indiens palia, les pailles, en fait, en français, parce qu'en fait, ils ont des habits de fête qui sont constitués par une plante dont on extrait des fibres végétales. Donc ici, il y a celui qui est le plus à gauche, les pancararous, il s'appelle. Et à droite, je crois qu'ils s'appellent les choukourous. Donc deux groupes indiens avec leurs habits traditionnels, produits grâce
Il est
au...
complètement recouvert par les
Oui.
pailles, en fait. Ça fait penser un peu. Enfin, je ne sais pas comment le décrire, mais on ne voit pas le visage de la personne.
Il n'y a
On
que des
dirait que les
petits
pailles.
trous pour voir les yeux.
Oui, il y a des pailles qui ont l'air d'être nouées au-dessus de la tête. Il y a comme une auréole.
Ce qui est fait de l'auréole sur le crâne, c'est fait de plumes.
Waouh! Et ça descend jusqu'aux pieds.
Oui.
Il a un bâton.
Il a un bâton. En fait, là, il est très... Alors, je ne connais pas bien leur culture, je ne suis quand même pas rentrée suffisamment. J'avais besoin de faire ces illustrations assez rapidement. Mais tu vois qu'il a aussi dans la main une calebasse, en fait, un instrument de musique, une percussion qui est fabriquée dans des petites courges, en fait, des calebasses. Donc, il est probablement en train de danser, de chanter. Enfin, ça peut être associé à des rituels. Voilà, je suis pas suffisamment rentrée dans la culture de ces Indiens, mais en tout cas, c'est leur habit de fête. Alors, effectivement, moi, je suis partie d'une photo sur laquelle on voit bien, bien, bien le tressage, en fait, de cette espèce de masque. Et duquel partent des pailles beaucoup plus, des fibres beaucoup plus libres, avec seulement ces deux trous par lesquels il peut regarder, voir. Et les autres ont seulement des espèces de jupes et ces chapeaux qui sont aussi tressés dans des pailles de palmiers, avec ce format bien particulier. Et d'ailleurs, cette plante que j'ai représentée au milieu avec des feuilles, avec des lignes, en fait, des lignes blanches sur les feuilles, c'est une des plantes dont on extrait les fibres. Ces fibres que j'ai représentées séchant dans la partie basse du tableau, elles sèchent. En fait, elles ont déjà été constituées en sorte d'écheveaux, en fait, et c'est à partir de là qu'ils vont fabriquer leurs vêtements après. Donc ici aussi, j'ai représenté un manioc, hein, c'est indispensable, c'est l'aliment de base, qui évoque la partie agricole. Et puis, une sorte de baobab, ce grand arbre au tronc rouge. On a dans cette région des espèces de la proche des baobabs. Ici, il y a trois espèces de cactus ou quatre bien particulières et qui sont emblématiques aussi de cette région. Ces reliefs, je me suis basée aussi sur des photos. Les reliefs peuvent avoir même des significations et rentrer dans la mythologie ont une importance dans la culture de ces gens. Il y a des pierres et des rochers qui sont sacrés. Ces motifs sont aussi empruntés à des motifs que j'ai trouvés très propres à ces groupes indiens. Et puis, les animaux que j'ai choisi de représenter, entre tous aussi dans la mythologie, ont une importance dans leur représentation de la nature. Donc, un tatou. Sous les fibres en bas à gauche, un fourmilier ou tamanoir au milieu à droite, un aigle, et puis un. Alors bien sûr, ils ne sont pas à l'échelle, hein, et un colibri. Le colibri est souvent très présent dans la culture et la mythologie des Amérindiens.
Tu nous racontes Marco Polo?
Alors oui, au milieu de tout ça, au milieu de tout ça, il y a un peu une ovni, là, un tableau qui sort du lot que j'ai réalisé bon, au départ pour essayer enfin pour répondre à une demande d'un groupe d'artistes auquel j'appartiens, qui avait lancé le thème des villes invisibles de Calvino, de Italo Calvino. Donc, l'idée, c'était une interprétation personnelle de ce livre, Les villes invisibles, dans lequel Italo Calvino met en scène en fait Marco Polo. Marco Polo rencontre Gengis Khan en Chine et il lui raconte ses voyages. Et de ses voyages, il parle des villes qu'il a traversées. Chaque petit chapitre est consacré à une des 55 villes que décrit Marco Polo. Chaque ville a un nom de femme, d'ailleurs. Et ce sont des villes imaginaires, chacune très, très particulière. Alors, je ne saurais pas vous dire là, te dire les noms de chacune des villes qui m'ont inspirée, mais j'ai lu ce livre et j'ai noté certains passages qui m'inspiraient pour imaginer ce que pouvait être cette ville ou une partie de cette ville. Et je les ai rassemblés dans ce tableau. Y en a une, par exemple, qui est une ville bateau. Voilà, elle est au centre du tableau. Une ville qui se reflétait dans l'eau, enfin une ville miroir que j'ai représentée à gauche. Alors en plus, je revenais d'un voyage en Italie et le livre, enfin c'est assez explicite dans le livre, Venise inspire beaucoup la description de ces villes-là. Alors, bon, peut-être pas toutes, mais du coup, moi, je m'en suis aussi inspirée. Enfin, je n'étais pas à Venise, mais je me suis inspirée un petit peu de cette architecture italienne. Une ville qui est constituée de je ne sais combien de dômes, enfin une centaine ou plus de dômes. Donc, je l'ai représentée au bas de ces tours, une ville qui était constituée de tours avec des montgolfières, c'est décrit, hein, donc, qui est en haut à gauche du tableau, une ville perchée dans les arbres, une ville faite de tuyaux au centre, une ville à droite à laquelle on accède par des échelles et qui est sur des espèces de plateformes avec des grues. Enfin, chaque élément est inspiré de... Alors évidemment, c'est une interprétation. Une ville pleine de bambous, j'ai mis au centre. Dans une ville, il y avait aussi quatre tours particulières que j'ai un peu imaginées derrière les remparts. Et puis, il traverse des déserts, il rencontre des caravanes de chameaux, des marchands de tapis. Enfin bon, ça, c'est la partie qui m'a beaucoup plu parce que ça m'a ramenée au Maroc. Assez amusant à lire. Et je sais que les villes invisibles... Le livre sert aussi beaucoup à des ateliers d'écriture. Enfin, c'est une mine de sources d'inspiration et d'imagination.
Donc, je rappelle que l'exposition a lieu à la galerie de Si les vaches avaient des ailes à Rompon et qu'on peut la voir jusqu'au 30 avril. Je mettrai également une image d'une peinture dont on a parlé, hein, probablement celle des villes invisibles de Marco Polo, sur le site de l'émission et puis avec un lien vers ton site internet.
Oui.
Pour que les auditeurs puissent retrouver ton travail. Merci beaucoup, Sylvia. Donc, c'était Sylvia Barry.
Merci, Maroussia. Merci.
Vous pourrez retrouver cette émission et les interviews sur le site de Radio Saint-Ferréol à la page des émissions culturelles, à la page de Artomatique plus précisément. Et bien sûr, cela devient un rituel, les musiques que vous entendez au cours de l'émission sont la réponse à la question « Qu'est-ce que tu écoutes quand tu travailles ?» De la même manière, sur la page de l'émission, vous trouverez un visuel d'une œuvre dont on a parlé pendant l'émission. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Maroussia pour l'émission Artomatique sur Radio Saint-Ferréol. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.